passeuse d'infos.
Quand on a demandé l'asile,
sans papier,
on m'a dit c'est pas facile,
sans papier,
tu vas attendre 2 ans,
sans papier,
et tu reçois refusé.
Passeuse d'infos est une émission consacrée à la question migratoire. Au gré de l'actualité, des rencontres, des événements, elle tente de reconstruire le paysage politique, économique et social d'un des enjeux les plus complexes et les plus graves de notre époque. De tous les horizons, des intervenants et des intervenantes du monde entier nous informent de leur action et de leur actualité. Passeuse d'infos, bonjour. Ça y est, c'est la rentrée pour tout le monde et c'est la rentrée pour nous aussi. Ça fait longtemps qu'on a quitté l'école, mais on se fait des petites rentrées de temps en temps aussi. Ça, c'est rafraîchissant. Voilà, aujourd'hui j'ai 2 invités à la table de Radio Zinzine et j'en suis tout à fait ravie parce que c'est rare dans cette émission qu'on arrive à avoir des invités physiquement présents dans ce studio. Donc c'est Martin Lerouerou qui est avocat.
Jouvin.
Ah oui, je te donne le nom de ta maman.
C'est pas de souci.
Allez, ça pourrait être.
ça pourrait, oui, mais...
Martin Jouvin, oui, qui est avocat, donc spécialisé dans le droit d'asile, droit au séjour.
Ouais, droit des étrangers.
Droit des étrangers, ouais. On dit comme ça. Et puis Simon Bertrand, qui est juriste aussi spécialisé dans le droit des étrangers, qui a fait plein de choses déjà, qui s'est baladé dans plein d'endroits différents et qui va nous raconter. Enfin, on a déjà parlé ensemble d'ailleurs au moment où tu étais en Grèce. On a fait toute une émission sur ta mission en Grèce. Et voilà, on avait aussi une discussion à l'époque sur les CADA auxquels tu participais.
J'avais déjà oublié.
Voilà.
En Marseille.
Alors, l'été a été particulièrement meurtrier sur les routes migratoires. Il y a eu beaucoup de morts en mer, beaucoup de morts aux frontières. Il y a eu des refoulements brutaux. La liste, elle est trop grande. Et toutes ces violences barbares subies par celles et ceux qui, encore une fois, et on ne cessera de le répéter, recherchent une vie meilleure ou simplement veulent voyager, comme nous toutes et tous. Vous avez dû entendre parler de Ceuta, parce que ce qui s'y est passé est un événement tout à fait extraordinaire. 70 000 personnes, je ne sais pas si on se rend compte de la masse humaine que c'est, 70 000 personnes qui sont venues du Maroc dans son entier, de partout du Maroc, et qui se sont massées à la frontière espagnole qui se situe sur le territoire marocain et qui ont tenté le passage. Là, on parle de dizaines de morts et de disparus. C'est un drame incommensurable dans l'histoire de la migration des peuples de ces 50 dernières années sur le sol européen, bien sûr. Nous reviendrons sur cette affaire puisque je me rends au Maroc la semaine prochaine et que je vais tenter de trouver des personnes engagées sur le territoire marocain capables de me donner des informations fiables. Je vais même essayer d'aller à Ceuta pour voir ce qui s'y passe sur le terrain. Je vous conseille quand même un très bon article que j'ai trouvé sur lundi matin ou qu'on m'a envoyé, d'ailleurs plusieurs personnes me l'ont envoyé, et qui propose une analyse un petit peu plus approfondie de ce drame, ce véritable drame, que la majorité des autres articles qui sont sortis sur le sujet, qui balayent de manière toujours un peu, même beaucoup superficielle, avec des informations qu'on veut toujours spectaculaires, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'en soi l'événement l'est, spectaculaire, il est incroyable, mais surtout ce qui est intéressant c'est de l'analyser, de le comprendre et d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai relu des articles sur l'année 2005 où il y avait eu un premier drame à la frontière de Ceuta et où c'était 5 personnes qui avaient été tuées et quelques personnes qui avaient été blessées. Et à l'époque, en relisant les articles, je me suis rendu compte que c'était un véritable événement, c'était quelque chose qu'on mettait en lumière comme un vrai drame. Aujourd'hui, on parle de 70 000 personnes, sans compter tous ceux qui sont morts en mer, sans compter les assassinats des gardes-côtes libyennes, sans compter, enfin, parce qu'on en parle quasi pas, et on est seulement 20 ans après, quoi. Donc, en 20 ans, on s'est habitué à ce que ce soit possible, à tous ces drames, toutes ces vies perdues, toutes ces vies disparues, parce que c'est pas que perdu, c'est vraiment disparu. Et voilà, c'est assez angoissant en fait. Voilà, je voulais ouvrir malheureusement la saison de passeuse d'infos avec cette terrible nouvelle. C'est vrai que c'est pas réjouissant, on a peu d'informations réjouissantes dans cette émission, on le dit souvent. Mais on a des gens jeunes, pleins de dynamisme, qui sont là pour être aux côtés des personnes exilées et pour les aider quand même à acquérir un droit à l'existence. En attendant, avant de parler avec Martin et Simon, on va écouter Mehdi Blackwind, qui est un jeune Marocain, rappeur, cinéaste, vidéaste, qu'on connaît. Voilà, c'est un ami qui a été arrêté au Maroc, c'était il y a de ça un mois et demi, il me semble, j'ai plus les dates en tête. Il a été relâché, mais il a un procès début octobre, parce que, un peu naturellement, il réclame une certaine liberté d'expression et le droit aussi de dire qu'au Maroc, ça se passe mal. Et avec ces 70 000 personnes massées à la frontière, il y a quand même une preuve évidente qu'il y a un gros problème.
La vie est belle, maman. La vie va mal, maman.
نيف نشبه حمري جتنا الضيق قبل ما نعيق وباش نفيق وضربنا نور لاتكس ولحقو شوف رولكس ديالك شوف الوقت كيف الويد بعنا في كل شي كيف ويد وقع ما بغت تقيم في ست سنين وتلخالة حمقات وتيف ويد طيح الطيم جاف العيد بقالين غد جنيد طوماج ملكيتش في البزولة نيسكويك قالوا لي الدولة زبا طويل تعيا تهرب غتحويك تم على الزوار شافوا فيا قالوا لي ما ساويش بلدك بيعك رخيص جاب لغتنا ما داويش غنسالي في شي طارة ولوحو دمي في شي قرقارة كل مصروف الدفين بلا تصور بلا زمارة طفيف قبري كارو طفيف قبري كارو ما تقول والو للسفارة كندير نسا وخليتو فيا لي مارا رجل ونسا بلا باسبورات عبيد في الامارات اللي كان شديد وسط الحارة عدام ورشاو غير بوطوات اللي بقاو لي بوطو قاع مشاو باقي جواد هادي الساكا في كونفلي مع الماضي لي وشام غير بلاكا باش ينسي درابي الماضي هربت من دروب جوج مترو وحلمت بلا تور ايفل غولفا بالنيترو نابولي مارسي طابرولي في نيبرو نقول لا في بيل ماما لا في فا مال ماما
لا في فا مال
هرمت من دروب جوج مترو وحلمت بلا تور ايفل غولفا بالنيترو نابولي مارسي طابرولي في نيبرو نقول لا في بيل ماما لا في فا مال ماما لا في فا مال مشي بلا رجعة هادي اخر غوتة مسني الزودياك في الشمال هنا ما بقاتش الهوتة قال البلاك وقلنا باغي الفيدنا قلنا عاش سيدنا عالله يشوف جيتنا داز الوقت تسطينا ما بقتش تفينا تسباغة الروكان حسن لينا سمعوا مصارنا اش باغة هدي تورات الجوع ماشي لا رونيسانس ليسانس في القراعي نبارتاجي ولا سوفرانس 30 عامرة اللي تراترا شي حاجة ما ترد العمر طفولة من تلومة فرد البرا بغيت غنهدر سكوزا خايسيمو على الاسلوب الراكيك هدا غا كلبك ديال سنين دابا دار فيك درب كله طالع دابل حيت سقونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم في راس بنادم حي الكبدة قصاحت احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروش كيبدا من الفوق هكا امي قالت.
On est de nouveau à l'antenne. Je suis donc en compagnie de Martin Jouvin.
Absolument.
Et de Simon Bertrand, qui sont tous les deux juristes spécialisés dans le droit des étrangers. Je vous remercie d'être là dans cette émission de Passeuse d'infos. Il y a tellement de choses à dire que presque j'en ai le tournis. Alors, je me suis dit qu'on ne va pas parler que de législation, de droit, etc. On va parler de vous aussi un petit peu et de qui on est quand on s'engage dans des secteurs du droit qui sont aussi complexes, aussi déshumanisés. C'est difficile de se confronter à la situation des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont suspendus au-dessus du monde, qui n'ont aucun droit à l'existence. Il faut quand même se rendre compte que quand on vit au quotidien, on se réveille le matin, on se couche le soir sans papier. C'est un fardeau psychologique ou c'est une terreur psychologique permanente, quoi. Ça veut dire que pour le mental, c'est quelque chose de très dur. et voilà, vous accompagnez ces gens-là. Donc je sais pas, peut-être on commence par toi, Martin, qui n'a jamais parlé à cette antenne, Martin Jouvard. Pourquoi t'es rentré dans ce tunnel, j'irais presque dire, ce tunnel sans,
on peut le dire, ouais.
Sans lumière au bout pour le moment.
Pour des raisons personnelles, familiales, donc par ma mère que tu as, dont tu as cité le nom au début d'info, qui a elle-même, en tout cas moi quand j'étais petit, eu pas mal d'accroches avec le milieu des exilés, notamment un peu russophone, voilà, qui venait un peu de l'espace post-soviétique. Et donc j'ai un peu grandi dans ça. Et voilà, à mes 18 ans, j'ai eu le bac et je ne savais pas trop ce que j'allais faire, donc j'ai fait du droit. Et je ne savais pas encore à cette époque-là que voilà, je voulais être avocat, ni être avocat en droits étrangers, mais évidemment, j'avais quand même un peu cette fibre. Voilà, j'avais un peu grandi dans un environnement où il y avait des étrangers, des exilés, même si je ne savais pas ce que ça recouvrait comme situation à chaque fois, hein, évidemment, quelle était leur situation à ces personnes. Mais voilà, j'avais grandi avec des gens d'ailleurs, disons. Et donc je pense qu'un peu naturellement, je me suis dirigé vers ça, d'abord avec un peu l'associatif, dans des assos à Paris qui aidaient les exilés, et avec qui je suis en contact maintenant que je suis avocat d'ailleurs, qui m'ont pas mal formé, qui m'ont bien, avec lesquels j'ai beaucoup appris, qui m'ont donné l'opportunité de faire beaucoup de, enfin assez rapidement et assez, du terrain assez concrètement à l'OFPRA, enfin voilà, peut-être qu'on en reparlera, mais voilà, accompagner des gens dans leur demande d'asile, donc voilà, assez rapidement, et ils m'ont fait confiance et c'était bien, donc voilà, naturellement après je suis devenu avocat pour des raisons personnelles, de un peu de ce que je voulais faire, c'était un peu le métier qui me paraissait, et bon, pour en parler avec Simon peut-être aussi, de... En fait, quand je me suis dit que j'allais faire du droit des étrangers, du droit d'asile, et justement que c'était évidemment dans une vocation un peu militante d'aider ces personnes-là à se régulariser, à avoir un titre de séjour, j'ai déduit de ce que je voyais que seule la pratique de l'avocature, enfin seul être avocat, permettait... C'était ce qui permettait le mieux d'aider ces personnes-là, et c'est comme ça que je serais le plus pertinent et que je pourrais... disons le plus obtenir de victoire, enfin disons on parlera aussi de ce que c'est une victoire, mais
oui,
en tout cas voilà, le plus régler les situations et que je pouvais être le plus auprès du terrain, aller au tribunal, enfin voilà, que j'avais des outils que d'autres n'ont pas, parce que être avocat donne accès à certains outils que sinon on n'a pas et qui me paraissait pertinent. Enfin, j'étais voilà, je savais que c'était
des portes.
Ça. Voilà,
ça ouvre des portes qui souvent sont fermées pour le milieu associatif.
C'est ça, pour les gens qui aident, pour les gens aidants, mais pour les juristes, malheureusement, qui ont des compétences tout à fait égales aux avocats, voire même tout à fait supérieures aux avocats, mais qui n'ont pas accès aux tribunaux, notamment. Je parle surtout de ça. Et voilà, moi, je savais que j'allais être frustré de ne pas avoir ça, donc j'ai décidé de devenir avocat pour être complètement investi. Et je pense que j'ai bien fait. Enfin, en tout cas, ça me plaît toujours actuellement de le faire, même si, évidemment, on en reparlera, je pense, c'est dur et c'est compliqué et c'est un peu un tunnel. Mais il y a aussi des victoires. Et voilà.
Il y a une nécessité absolue.
C'est ça, il y a une nécessité.
Fait une jolie transition avec Simon Bertrand, qui est avec nous et qui est juriste donc, dans le droit des étrangers. Et toi, tu n'es pas avocat.
Je ne suis pas avocat.
Toi, tu es un juriste de terrain.
Oui, on peut dire ça.
C'est l'impression que ça m'a fait depuis qu'on se connaît que t'es plutôt. T'as travaillé dans un CADA déjà, à la Nacelle.
Ah, la Caravelle.
La Caravelle.
La Caravelle à Marseille.
À chaque fois, je dis la Nacelle, je sais pas pourquoi. Caravelle, Nacelle. La Caravelle à Marseille, qui est donc un centre d'accueil pour des demandeurs d'asile, pardon.
C'est ça.
Un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qui est un centre d'accueil qui m'avait surpris d'ailleurs parce que c'est des appartements.
Oui,
c'est diffus, alors que pour moi les centres d'accueil c'était un peu des grosses maisons avec plein de chambres et des cuisines collectives, etc., etc. Et là c'est pas du tout le cas. Bon, voilà, tu as travaillé quelques années.
C'est ça, oui.
Pour la Caravelle, tu es parti en Grèce.
Oui.
Pour faire du terrain. C'était l'an passé.
Dans un cabinet d'avocat, pour le coup.
Enfin,
en tant que juriste, mais dans
en
un
tant que juriste. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené au droit des étrangers?
Quelle bonne question. moi, je suis parti, j'ai fait du droit sur le tard déjà, je n'ai pas commencé par le droit. Je suis parti en Grèce en 2016, début 2016, avec mon sac sur le dos et probablement la volonté d'aider ou de faire quelque chose. Je pense que tout le monde replace un peu ce qui se passait en Grèce fin 2015, début 2016, Lesbos, les arrivées massives, les Syriens bloqués à la frontière avec la Macédoine, etc. Et j'ai démarré ça comme ça, sans formation, j'avais pas de diplôme, enfin j'avais mon bac, quoi, mais j'avais rien d'autre. Voilà, militant, donc j'ai fait de la logistique humanitaire pendant un certain temps. Puis j'ai été chargé de projet pour différentes associations à Bruxelles. Et beaucoup de frustration. Pardon, je suis un petit peu enrhumé, donc je m'excuse. Beaucoup de frustration, je trouvais que ça manquait. Enfin, il y a beaucoup de gens que j'accompagnais sur plein de questions, ou même qui deviennent des amis à force. Et il y avait souvent des manquements autour du droit, sur la régularité de leur séjour, sur X ou Y questions, et ça me frustrait beaucoup. Et donc, j'ai décidé de reprendre des études de droit en cours du soir. À partir de la licence 1, et c'est bah voilà, la finalité de ça, c'était devenir juriste, peut-être un jour avocat, mais pour l'instant juriste en tout cas, ça amène d'autres choses quoi. Ça amène d'autres choses que d'être avocat, plus de liberté, je dirais, mm-hmm. Enfin, une plus grande flexibilité.
Oui, tu peux développer ça, c'est intéressant.
Parce que je rejoins quand même Martin sur le fait de dire.
Oui, j'aurais dit moins, mais ok.
Je rejoins Martin sur le fait de dire que. Que oui, les avocats peuvent entamer des procédures que les juristes peuvent pas, et ça, bah en fait, c'est, enfin, ça change beaucoup de choses, quoi. Ouais, quand même. Moi, je peux pas aller plaider, enfin, je peux écrire des recours, mais je peux pas aller plaider devant un tribunal, quoi. Et ça, c'est voilà, c'est quand même essentiel.
Tu peux pas rentrer facilement dans un centre de rétention non plus.
Je peux pas rentrer dans un
centre de rétention.
Ouais.
Voilà, ça ouvre des portes.
Oui, non, mais être avocat ouvre des portes. Par contre, ouais, je dirais que juriste, ça me permet une certaine flexibilité. Ça m'a permis d'aller en Grèce. Ça me permet d'être en France actuellement, parce que je suis pas français, je viens de Belgique. Et donc, je pense que ça amène ça déjà, parce que je suis pas ancré dans une pratique qui a un territoire, etc.
Oui,
ça
oui.
me rend flexible géographiquement. Et je dirais que, en tout cas, c'est ma perception de mon métier, que je fais pas que un métier du droit. Il y a beaucoup de pédagogie, dans l'approche que moi j'ai du droit. J'ai l'impression que je passe un bon 50% de mon temps juste à expliquer ce qui se passe. Et j'ai le temps, parce que je suis pas. Parce que mon rendement n'est pas calculé au nombre de procédures que je fais, comme les avocats qui doivent faire rentrer leur paye, quoi, c'est normal. Mmh. Et moi, c'est pas mon cas. Et donc, en fait, il faut prendre le temps d'accueillir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes là, expliquer le droit d'asile, ça, c'est ça, et que ça fonctionne comme ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est souvent le bienvenu. Enfin, une compréhension un peu fine et plus profonde de ce que c'est l'asile en général ou le séjour en France. Je pense que c'est essentiel pour les gens qui arrivent ici et qui sont considérés comme des étrangers. Et donc je pense que voilà, moi c'est une partie importante de ma fonction, c'est ça, je trouve. Mmh. Ce que ne font pas les avocats par contrainte, je pense par contrainte financière, contrainte de temps.
On le fait un peu, mais après oui, ça dépend. Sur le, il y a clairement une question un peu plus de, en tout cas qui vient avec le temps et la pratique de contrainte financière qui fait que. Enfin, moi, par exemple, je suis pas forcément dans une logique de rendement et j'ai des confrères et des consoeurs qui ne le sont pas non plus. Forcément, c'est un peu, ça va avec fonction de ton engagement, mais ça n'empêche pas que voilà, il y a un peu cette logique-là, mais quand même, on va prendre le temps aussi d'expliquer. Enfin, tu vois, clairement, de faire un peu de pédagogie, mais ça, c'est plus dans une approche ensuite contentieuse. C'est plus voilà, on va apprendre, enfin, on va expliquer pour mieux gagner, disons.
Mais par exemple, toi, est-ce que tu as le temps d'aller sur le terrain, d'aller à Paris, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de spots, de squats, d'attente, enfin, c'est dur, la vie est dure là-bas. Est-ce que tu arrives à aller sur le terrain un petit peu? Est-ce
non, que ça, c'est sûr que pour le coup, et c'est là où c'est vrai que je te rejoins, Simon, être avocat, c'est être flexible parce que, bon, alors, il y a plusieurs manières d'exercer, mais disons que la manière idéale, c'est qu'on est à son compte, comme moi, c'est le cas, par exemple. Donc, on n'a pas de patron et on est flexible en termes de ce qu'on fait de notre temps. Évidemment, on est conditionné par des rendez-vous et des audiences. Mais par contre, on est un peu cadré géographiquement. Et effectivement, je peux pas aller en Grèce. Enfin, je peux aller en Grèce, mais ça veut dire que j'abandonne toute ma vie professionnelle à Paris. Je peux pas aller à Marseille, je peux pas aller à Bruxelles. Donc, effectivement, je suis un peu plus cadré. Mais par contre, je peux y aller si j'ai envie d'aller une semaine en Grèce pour voir ce qui se passe en Grèce. Je peux y aller. Mmh. C'est juste de l'organisation. Et je pense que le métier d'avocat, la profession fait que dans l'exercice, tu vas moins aller sur le terrain. Par exemple, tu vas pas aller traîner à la chapelle ou dans des squats ou à des endroits dans Paris, rien que dans Paris par exemple, où je pourrais y aller en termes de temps. Mais tu vas pas y aller comme ça pour dispenser des conseils juridiques aux gens qui sont là. Il y a des gens qui le font, mais c'est souvent organisé soit avec des assos, soit avec des permanences du barreau, par exemple, qui font un peu ça. Mais tu le fais pas tout seul. Hein, tu le fais, et je pense que tu le fais de moins en moins quand tu deviens de plus en plus avocat. C'est un peu parce que là, il y a clairement une question de un peu rendement et un peu parce que tu es aussi dans autre chose. Et je pense qu'on se considère comme étant dans une autre partie de, du parcours de l'étranger en France. Et on va dire, bah là, nous, on va réserver notre temps et dépenser notre énergie dans le tribunal, les rendez-vous, les préparations, l'étude des dossiers, voilà, tout ça. Et que du coup, on considère, mais sûrement un peu à tort et un peu par snobisme, je pense aussi, que voilà, on est ailleurs. On est ailleurs et que du coup, on n'a plus à faire ce travail de terrain. Voilà. Et je connais peu d'avocats qui le font. Voilà, je pense que c'est
Mais je pense que chacun a son rôle et que
c'est très
important. Il faut pas le mettre dans la balance comme quelque chose de plus valorisant ou moins. Je pense que chacun a son rôle dans cet espace d'organisation sociale, juridique, etc. Qui nous contraint.
Mais ça nous ferait pas de mal de faire un peu. Peut-être d'aller plus à la chapelle. Parfois, je pense que voilà, ça peut. Au bout d'un moment, ça peut peut-être certaines réalités du terrain nous échapper et que ça ne fait pas de mal de s'y maintenir. En tout cas, voilà.
Moi, je
pense que je suis encore assez en lien avec ça, mais ça peut arriver vite qu'on s'enferme un peu dans son château.
Construire des dossiers, des arguments. J'imagine que c'est important de faire du terrain.
Ça s'applique à plein de choses. Je pense que les juristes auraient beaucoup à gagner à aller plus souvent dans les tribunaux.
Oui. Absolument. Non, mais c'est pareil.
Il s'y passe aussi beaucoup de choses.
Oui.
Et je me dis ça à moi-même en premier. Hein. Je ne vais pas assez souvent à la CNDA, par exemple. Mm. Et c'est un tort.
Eh bien, parlons-en de la CNDA, parce que toi, Martin, t'y vas régulièrement, défends des dossiers à la CNDA. Alors, on en a parlé, la CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile, enfin de l'asile.
Oui, c'est ça, une cour d'asile. Oui,
ouais, voilà, du droit d'asile. Donc, c'est le recours qu'on a quant à l'OFPRA, on n'a pas été accepté. Il y a encore cette possibilité-là d'aller à la CNDA, de faire un recours. Et là, on est assisté d'un avocat.
Absolument.
Ce qu'on n'a pas à l'OFPRA. Ouais. On est souvent assisté d'un...
De personnes. De personnes.
Il a fait chaud cet été, vous allez me pardonner. Hein,
d'un
traducteur.
Oui, d'un interprète.
On est assisté d'interprètes qui, d'ailleurs, sont souvent pas à la hauteur de ce qu'aimerait... Je suis désolée, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui ont été très choquées, déçues. Heurtés par la manière dont ils ont été traduits dans leur récit.
Il y a de l'enjeu, mais pour moi, je pense qu'il y a un enjeu subjectif, et en tout cas, c'est ce que je dis beaucoup à mes clients qui viennent me voir, parce que j'ai aussi parfois des clients qui viennent me voir au stade de la préparation de l'entretien OFRA, donc voilà, il arrive que je prépare certaines personnes, et tout le monde a peur de l'interprète. Pas tout le monde a un peu, pas peur, mais inquiet de est-ce que mes propos vont être bien traduits. Mais
c'est
ça,
difficile.
Je pense que c'est parce que c'est inhérent au fait qu'on parle d'un truc super important, de sa vie, pour un truc avec un enjeu hyper important, dans une langue qu'on est la seule à comprendre, qu'on sait que la personne en face ne comprend pas et que notre seul relais, c'est cet interprète dont on ne connaît rien et on ne connaît pas les compétences. Après moi, voilà, pour avoir fait beaucoup d'entretiens à l'OFPRA, pour y être beaucoup allé, pour en avoir lu beaucoup, surtout dans les recours CNDA, je tempère un peu les critiques qui sont faites. Je pense que, en fait, l'interprète, il est critiqué aussi quand il y a un rejet de l'OFPRA, et parce que, en fait, je pense que la personne qui a fait sa demande d'asile, elle est aussi en colère de ce rejet, elle ne le comprend pas, parce qu'elle s'est bien exprimée. Et elle va peut-être aussi chercher, pas un bouc émissaire, mais voilà, aussi un petit peu à rediriger... peut-être un peu de colère contre l'interprète qui de ce que j'en ai vu des mauvais hein. Je comprends pas la langue originelle dans laquelle il parle, mais je vois bien que quelqu'un a parlé il a dit beaucoup de phrases et c'est traduit en trois mots et on comprend pas trop ce qu'il dit, c'est pas très cohérent. J'en ai vu faire des erreurs sur des dossiers que je connaissais où il traduisait il se trompait, mais dans l'ensemble c'est quand même des gens qui sont compétents. Enfin, je suis pas un lobbyiste des interprètes hein, mais j'ai vu. Et pour le coup, pour faire un parallèle, c'est que dans les fonctions, dans les tribunaux judiciaires, donc par exemple dans un procès pénal ou quoi, il y a aussi des interprètes et la qualité, elle est beaucoup moins bonne. Enfin, pour avoir vu de l'interprétariat dans les tribunaux judiciaires, c'est là, ça fait un peu peur. Enfin, là, on se dit, ok, là, c'est vraiment, il y a une perte de traduction incroyable. Et c'est alors que voilà, la CNDA et à l'OFPRA, parce qu'il y a aussi un interprète à la CNDA, c'est quand même
normalement,
assez qualitatif.
Des gens,
peut-être quand même dire que un rejet ne se joue pas sur une erreur d'interprétation.
C'est ça, en fait, c'est ça.
C'est quand même plus complexe que ça.
C'est ça.
Mais c'est vrai que, enfin, pour être de l'autre côté, en tant que juriste, quand tu accompagnes un dossier, etc., et tu sens que les gens sont frustrés quoi, de l'interprétariat assez régulièrement, et peut-être lire là-dedans que l'enjeu à l'OFPRA, il n'est pas que les gens ne vivent pas qu'un enjeu juridique. Nous, on voit ça, voilà, le droit, rentrer dans les cases du droit, c'est classique. Mais les gens racontent probablement, sans psychologiser, mais un bout de leur identité, ils n'ont pas grand-chose, ils sont là, ils ne sont pas chez eux. Et donc tu racontes qui tu es, quoi. Et donc tu as envie que ce soit compris. Et ça te donne l'impression que c'est ça. Enfin, je sais pas si toi, c'est ta pratique aussi.
Ouais, ouais.
Un des grands boulots des avocats et des juristes pour moi, c'est de rappeler que c'est pas parce que soi-même on vit quelque chose de difficile lié à son parcours ou à l'endroit d'où on vient, etc., que forcément ça va rentrer dans des cases du droit. Mmh. Et c'est pas pour ça que l'histoire n'est pas valable. C'est pas parce qu'il y a un rejet de statut, etc., que l'histoire n'est pas valable. Et on confond quand même souvent. C'est habituel, je pense, mais les gens confondent souvent de si mon histoire est bonne, si je montre vraiment que moi j'ai vécu l'injustice dans mon monde à moi, alors forcément j'aurai le statut, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Le statut, c'est mathématique, critères, mais, c'est des cases juridiques, et notre boulot à nous, c'est quand même de faire rentrer ça le plus mieux possible, une sorte de puzzle, quoi, dans lequel il faut mettre la bonne pièce. Voilà.
Pour rappeler aux auditeurs, l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Oui, pardon.
C'est juste
oui,
parce qu'on l'a dit très vite. C'est vrai, ouais. Et c'est vrai, des fois, nous, on est tellement dedans qu'on ne se rend pas compte. Et donc, la CNDA, c'est une très grosse administration.
L'OFPRA, tu veux dire.
Là, on parlait de la CNDA.
Ah oui, c'est une juridiction aussi, même. C'est une juridiction. Parce que l'OFPRA est une administration.
D'accord, ok. Et la CNDA, on en a parlé un petit peu. On avait fait une émission que j'avais trouvée très intéressante avec une jeune femme qui travaillait à la CNDA.
Comme rapporteur.
Comme rapporteur, ouais. Rapporteuse. C'est-à-dire ces gens qui vont aller étudier sur le terrain les dires des personnes qui demandent l'asile ou qui font des recours. En l'occurrence, à la CNDA, c'est les gens qui font les recours. C'est-à-dire que derrière les juges, dans cette institution, il y a des gens qui vont travailler pour aller voir le village dont vous parlez, à quel endroit il est exactement, combien il y a d'habitants, où passe la rivière, est-ce que la personne qui parle de ce village-là va savoir que la rivière se passe exactement à cet endroit-là, etc. etc. Ouais. Il y a un énorme travail qui est fait de recensement ou de d'informations, quoi, de collecte d'informations sur ce qui se passe sur le terrain des demandeurs d'asile. Vous travaillez avec ces gens-là, vous les rencontrez, vous, les avocats?
Moi, j'en ai qui comptent parmi mes amis, donc mais je travaille pas avec parce que ils travaillent. En fait, les rapporteurs et les rapporteuses sont des fonctionnaires de la CNDA, ou contractuels, mais bref, ils travaillent à la CNDA. Et leur rôle, en fait, c'est un rôle de présentation du dossier, donc d'analyse du dossier en amont de l'audience, et à l'audience, de présentation orale du dossier, tel qu'il se présente devant la cour. Et c'est un peu souvent comme ça qu'ils finissent leur rapport, c'est en l'état que se présente le dossier devant la cour. Et après, les juges posent des questions, puis ils prennent une décision. Et effectivement, ils ont un travail de fact-checking, elle a dit ça dans son entretien OFPRA, pourtant le village, il n'est pas à côté de cette rivière-là, ou des choses comme ça. C'est plus ou moins bien fait. Enfin, disons que ça va dépendre de si le rapporteur ou la rapporteuse a envie d'aller chercher la petite bête ou pas. Ça dépend des dossiers. Mais donc, j'en connais et on travaille pas ensemble. C'est plutôt des gens qui sont parfois des alliés et parfois pas du tout des alliés. Enfin, moi, je suis assez critique. Mais bon, ce serait long à développer, mais je suis assez critique de comment les rapporteurs exercent leurs fonctions à la CNDA, en tout cas actuellement.
Dis pourquoi t'es critique de ça.
Bah, parce qu'ils ont un rôle, en fait, qui est assez important et qui est celui... En fait, ils vont donner une orientation un peu au dossier. Donc déjà, s'ils travaillent bien le dossier et qu'ils travaillent bien avec les écritures qu'a produit en amont l'avocat, les pièces qui ont été envoyées, qui ont été récoltées par le requérant ou la requérante, et qu'eux, ils font un bon travail d'analyse de ce dossier, ils peuvent en donner une version favorable au juge. Et s'ils font pas un bon travail d'analyse, ils vont rien en donner. Ça veut dire qu'ils vont donner une version plate et souvent, en fait, qui va être une reprise. Ouais. C'est ce que tu constates. Tu as en fait une reprise des arguments de l'OFPRA pour rejeter la demande d'asile. Donc, en fait, tu repars au même stade devant le juge qui, disons-le, très peu lisent beaucoup les dossiers. Et en fait, ils se fondent sur le rapport. Donc, Et c'est aussi la tambouille interne, c'est que les rapporteurs, ils discutent en amont avec le juge de tel dossier. Enfin, quand il y a des dossiers un peu complexes, ils en discutent aussi un peu avant. Donc, en fait, il y a des échanges d'informations qui font qu'ils ont un rôle hyper important pour mettre en avant le dossier. Et je le pense assez sincèrement, ils ont un rôle plus important que l'avocat. Ou en tout cas, au moment de l'audience, l'avocat n'a plus un rôle tant important que ça. Le dossier, il est presque déjà joué, justement, avec ce que le rapporteur va faire de ce dossier. Donc, ça va aussi dépendre, et c'est là où le rôle de l'avocat est important, des écritures qu'on aura prises, des pièces pertinentes qu'on aura envoyées à la cour. Mais si le rapporteur ne fait pas son boulot, c'est dur de rattraper ça, même à l'audience, parce qu'il faut tout replaider, il faut tout réexpliquer. Mais le juge, il avait déjà un peu son idée faite parce qu'il avait lu le rapport. Et voilà, et puis des fois, il y a même des rapports qui sont carrément de mauvaise foi, ou alors qui sont assez à charge dans des dossiers un petit peu, peut-être un peu politiques.
C'est dur, ça. Hein.
Voilà. Et, ça, c'est, ouais. Et donc, ils ont un rôle très important, et je trouve que. Enfin, moi, de mon expérience à la CNDA, j'ai vu plus de mauvais rapports que de bons rapports, disons.
D'accord.
Et donc plus de mauvais rapporteurs que de bons rapporteurs, et plus qu'à l'OFPRA. Et par exemple, autant l'OFPRA, c'est un peu la partie adverse à chaque fois dans le contentieux, autant ils travaillent, les gens qui y travaillent ne sont pas des personnes qui travaillent mal les dossiers. Il y en a, hein, évidemment, c'est comme l'interprète. C'est plus que, c'est à mon sens, ça reste une administration, c'est assez politique, il y a des dossiers qui passent pas, mais c'est parce qu'ils sont aussi revus par la hiérarchie. Mais la personne même qui fait l'entretien à l'OFPRA, ouais. j'en ai fait beaucoup, c'est pas les mauvaises personnes, enfin, c'est des gens qui pourraient s'asseoir à cette table et être avec cette émission, et qui sont comme nous. Quoi. Enfin,
Comment ils sont recrutés
Ils sont recrutés en sortie de M2, souvent c'est sortie de M2 droit ou un peu géographie, Sciences Po, qui n'ont pas forcément trouvé taf, c'est pas forcément une vocation, je pense, première, et ça recrute. Et c'est des conditions plutôt ok, et voilà, moi je trouve que, enfin franchement j'en ai vu beaucoup, ils sont pas horribles avec les demandeurs. Alors, gros bémol sur avec toutes les questions avec les femmes et les victimes, enfin victimes de violence, notamment violence conjugale ou violence sexuelle, souvent ensemble, c'est toujours pas ça à l'OFPRA. Alors là, CNDR, n'en parlons même pas, mais c'est toujours pas ça à l'OFPRA. Mais sur le reste, sur des dossiers politiques, sur des dossiers, sur des dossiers, ils sont assez corrects, ils prennent le temps, ils posent des questions, c'est long, ça peut être long, c'est pas bâclé, c'est pas... C'est rare, il y en a, mais évidemment il y en a, mais c'est assez rare. Par contre, des fois, il arrive que malgré qu'il y ait des bons dossiers, et que même l'officier de protection, donc qui est cette personne qui pose des questions, ait bien posé des questions, et c'est malgré tout, c'est un rejet. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose un peu, peut-être, de politique derrière, ou qu'il y a une espèce d'intention de ne pas trop donner statut de réfugié à telle population, ou à tel citoyen de tel pays, ou de telle région. Voilà, c'est plus ça que je reproche à l'OFPRA, mais contre lequel aussi je suis très critique. Mais voilà, pour finir, ces rapporteurs, je trouve qu'ils ont un rôle très important et qui n'est pas bien fait, et je trouve ça dommage. Enfin, c'est très dommage, même.
Tu voulais rajouter quelque chose, Simon ?
Non, pas rien de très pertinent, juste c'est vrai que je trouve dans les milieux militants, il y a une tendance à diaboliser OFPRA, CNDA, et je comprends pourquoi, mais je sais pas si c'est le plus intelligent. Je pense que les gens de l'OFPRA, il y a à boire et à manger, mais comme dans toutes les administrations de France, il y a des gens qui font du très bon travail, il y a des gens qui pensent militer d'ailleurs, même beaucoup je dirais. Je pense qu'il y a pas mal d'officiers de protection qui pensent militer dans leur travail et qui essayent probablement. Et je pense que c'est bien de se rappeler ça, et que à mon sens en tout cas, ce qui est à combattre, c'est pas l'OFPRA, c'est la logique de l'asile, les choix politiques généraux et tout. Il y a une philosophie presque d'État autour de l'asile, mais les officiers de protection, déjà souvent, comme on a dit, c'est pas eux qui décident. Sauf sur des dossiers évidents, etc. Et puis, il y a des enjeux politiques.
Ils restent soumis à des logiques.
L'administration est censée être neutre. Bon, on a l'œil, hein. Ouais. Et surtout pas l'OFPRA. L'OFPRA est éminemment politique. On le sait tous les deux avec Martin. On en parlait encore ce matin longuement de certaines nationalités. Même quand le dossier est béton, à mon avis, on sait qu'il n'y aura pas de statut à l'OFPRA, parce que ce n'est pas envisageable pour
Et là, alors, par exemple, en ce moment, les nationalités, on peut dire, qui arrivent à avoir fait des causes à l'OFPRA, c'est les Soudanais.
Franchement, les Soudanais, c'est un bel exemple. Par exemple, le Soudan, c'est un bel exemple de ce que fait mal l'OFPRA et de là où on peut critiquer l'OFPRA. Moi, c'est vraiment sur les questions plus de reconnaissance du fait que telle population dans un pays ou telle ethnie, par exemple, disons les Darfouris au Soudan, donc les gens qui sont du Darfour où il y a une guerre atroce, etc., peuvent rentrer chez eux, c'est pas très... Enfin, pas à considérer que c'est pas dangereux chez eux, mais à minimiser quand même ce qui se passe là-bas, à pas forcément reconnaître, bon là c'est l'état juridique, mais à pas forcément reconnaître un certain type de protection conventionnelle en refusant de prendre acte du fait qu'il y a y a un génocide qui est en cours là-bas, qu'en tout cas il y a au moins une épuration ethnique assez claire et assez affirmée des parties au conflit, dont sont victimes ces gens-là qui viennent demander l'asile en France. Et ça, l'OFRA, ils font bien en sorte de ne pas le reconnaître, parce que sinon, ça ferait un appel d'air, mais vous vous rendez compte, on ne va pas protéger tous les Soudanais parce qu'ils sont Soudanais, ou tous les Darfouris parce qu'ils sont Darfouris. Il faut quand même qu'ils montrent un truc en plus. Et il n'y a aucune volonté de l'OFPRA d'avoir une protection maximaliste. Sur notamment les questions d'ethnie minoritaire dans des pays en guerre, ces choses-là. C'est pareil avec les Afghans à l'époque, bon, maintenant il n'y a même plus vraiment ça, mais c'était les mêmes logiques qu'il y a un peu partout. Ils refusent, et ça clairement c'est politique, parce que si jamais ils se mettent à donner protection à tout le monde, alors que c'est ce qu'ils devraient faire juridiquement, ils le font pas, parce que sinon tout le monde va venir, quoi, ils ont peur. Voilà.
Et du coup là en ce moment, quelles sont les nationalités ou les conflits reconnus qui
moi je me risquerais pas
une protection? Il y en a pas.
À faire un commentaire là-dessus.
Ouais, non, moi aussi,
je pense que l'asile, c'est malheureusement pas une recette de cuisine, quoi.
Ouais.
On voit plein de Soudanais rejetés pour des raisons. Mais c'est, je trouve que Martin l'a bien dit. Hein. L'OFPRA n'a pas une volonté maximaliste, alors que le droit inviterait ça, c'est-à-dire que au Soudan il y a un conflit, un génocide en cours, dit
donc,
clairement
toutes les personnes devraient être protégées,
c'est-à-dire que toutes les gens devraient être protégées, on n'en parle pas. Et là l'OFPRA, à la CNDA je sais pas, j'ai moins suivi les dossiers.
À la CNDA c'est mieux, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait la CNDA c'est parfois un bon allié, c'est parfois, et parfois l'OFPRA l'est plus, mais la CNDA est plus offre plus de protection aux Soudanais, donc souvent les Soudanais ils vont perdre à l'OFPRA. Et il y a quand même une grande chance qu'il gagne à la CNDA, mais aussi parce que là, il y a un peu le rôle de l'avocat qui peut être essentiel dans le truc de faire reconnaître qu'effectivement, ils viennent de telle région, qui est une région qui est particulièrement touchée par la guerre, alors qu'à l'OFPRA, et là, c'est ce que fait, là où je suis très critique de l'OFPRA, et c'est le jeu auquel joue l'OFPRA et auquel, malheureusement, du coup, se prêtent aussi les officiers de protection qui jouent ce rôle-là. Donc, voilà, si vous voulez militer, je pense que c'est pas le bon endroit, mais ils sont dans cette administration, donc ils le font. C'est toutes les questions que tu disais tout à l'heure tu viens de tel village qui est à côté de telle rivière, mais pourtant, t'as pas dit que tu connaissais le nom de la rivière, donc ça veut dire que tu mens, tu viens pas de là-bas, donc pas de protection. En gros, c'est la logique, et ils s'amusent beaucoup à ce jeu-là, en demandant des questions hyper précises et en prenant d'un truc. Où là, typiquement, il peut y avoir des problèmes d'interprétariat, en plus c'est des dialectes, il peut y avoir des...
Et puis, la personne ne va
pas être assez précise,
oui.
Et voilà.
Ouais. Il peut y avoir des problèmes aussi de description, de forme descriptive culturelle.
Bah, bien
parce
sûr,
que
bien
si
bien
on
bien
peut,
clair, c'est un jeu
peut,
du langage aussi.
Voilà,
ça,
c'est un jeu du langage, c'est-à-dire qu'on peut dire que telle rivière se trouve à tel endroit,
oui.
Avec une certaine manière de décrire,
bien sûr.
Et on ne va pas dire, la rivière, elle est exactement au sud-est de telle, etc.
Même dans les bâtiments qui comptent, par exemple.
Ouais, c'est ça, c'est
les questions récurrentes, où est l'école, où est l'église. C'est alors que, bon, c'est notre culture à nous de centraliser tel ou tel bâtiment.
Voilà.
Et oui, bon, ça.
Demander à quelqu'un, c'était quoi ton quotidien pendant 20 ans, répondre à cette question. Enfin, n'importe qui, là, autour de cette table, c'est compliqué de répondre à cette question.
Mais évidemment.
C'est ça, les questions, c'était quoi ton quotidien c'est quoi,
et puis moi,
dans l'ensemble de ton œuvre, quoi.
J'ai eu affaire à des jeunes femmes qui ont été mariées à 13 ans. Qui n'ont pas été à l'école, qui ont été dans des milieux sociaux extrêmement restreints, et ça veut dire que certaines questions que tu leur poses, elles n'ont pas ce rapport de discussion, de description, de ce lien à la voilà, l'échange. Et donc, du coup, pour avoir des informations un petit peu précises, comme nous, on aime bien les avoir, parce qu'on est des gens curieux et très rationnels.
Non, mais oui.
Du coup, alors on est en face, c'est des fois complètement...
Ah oui, là, ça, c'est, et ça, pour le coup, c'est, voilà, ça, c'est vraiment ça très grave violent. Ce que fait Lofra. Enfin, là, c'est violent, ouais. c'est complètement pas pertinent, c'est complètement... ils sont à la ramasse totale et ils font exprès, enfin, dans mon sens, ils font en tout cas... Ils pourraient faire en sorte d'être, de pas faire ça, mais... Ils s'emploient à ce petit jeu-là en essayant de mettre un cadre, et puis si tu réponds pas bien dans le cadre, c'est que sûrement c'est que tu mens et que tu viens pas du Darfour et machin truc.
De toute façon, il y a le principe que tu mens. Enfin, tu vois, c'est,
voilà, ouais, ça, c'est le principe.
Tu es là pour mentir et profiter du système.
Ça, c'est sûr.
Et donc, forcément, tu pars déjà à charge. Quoi.
Ouais.
Et surtout que, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà travaillé là-dessus, et ce serait intéressant, mais pour moi, quand, si tu as. Enfin, toi, si t'es passé par l'école et, ou alors que tu as fait des études supérieures, tu as probablement deux ou trois fois plus de chances d'obtenir l'asile. Que si tu viens
voilà.
Et ça c'est pas ok en fait,
enfin, oui, non, ça, il faudrait faire
dans le fond et ça devrait être le rôle de cette protection de faire en fonction du contexte du requérant, enfin du demandeur, et c'est pas le cas. Et bon voilà, c'est,
mais ça, je trouve ça très important de le souligner,
je pense que tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler.
Je pense pas que tout le monde le sache, que justement il y a des gens qui ont des difficultés à décrire, à exprimer quelle a été leur vie, à quel endroit, etc., qui sont pas dans ce dans cette culture de la description voilà, qui vivent autrement les choses, qui les vivent directement au jour le jour, à la minute, etc., et qui ont une autre manière de décrire les choses.
Et puis il y a des quotidiens qui aussi dans des pays tiennent en beaucoup moins de phrases que le quotidien
complètement
français. Enfin, nous, voilà. C'est parce qu'on a une vie dans un pays qui est riche et donc un truc évolutif. Si t'es dans un pays où t'es pas allé à l'école, ou alors t'as fait peut-être l'école primaire et ensuite tu travaillais comme un travailleur journalier, parce comme c'est beaucoup le cas par exemple avec beaucoup les Darfouris qui travaillent un peu au jour le jour, bah ton quotidien ça reste de dire bah je travaille au jour le jour, et ça tient en une phrase quoi.
Mais
et puis j'étais avec des amis et on buvait du thé, et puis je voyais ma famille, et voilà quoi, c'est et c'est sûr que c'est pas le quotidien d'un jeune français qui va partir faire un Erasmus puis ensuite qui va faire
avec des vies beaucoup moins cadrées aussi. Nous voilà, on se lève, on a des horaires de travail, enfin toi pour la majorité des gens, ce qui est pas le cas des gens qu'on accompagne, surtout quand ils viennent de régions enfin d'une certaine ruralité, etc.
Mais c'est important
toutes
le
les questions de,
oui, c'est de rappeler,
ces questions-là clairement ne sont pas de l'OFPRA, que s'emploie à toujours poser l'OFPRA, c'est pas pertinent et c'est fou que ce soit toujours le cas, mais ça sera pas voilà,
pour et moi, on les appelle quand même les officiers de protection.
Oui,
ce qui est très paradoxal. On va faire une petite pause musicale, je rappelle aux auditeurs qu'on est avec Simon Bertrand et
Martin Jovin,
Martin Jovin,
et c'est la chaleur,
sont tous les deux des spécialistes, on va dire, du droit des étrangers, puisque c'est votre travail. Ouais. Bah non, c'est un grand mot, c'est votre boulot.
Spécialiste.
Voilà, mais on va écouter un petit peu de la musique. De Simon et de Martin pour cette émission de Passeuse d'infos, et on parle de la question de, là on a tourné autour de la Cour nationale du droit d'asile et puis de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme vous êtes tous les deux un peu spécialisé dans la question du droit des étrangers. Je dis un peu parce que ça les choque que je dis spécialiste, et c'est vrai qu'on aime. Bah, c'est bien quand même d'être spécialiste. Bon, allez, et on parlait de ça, et moi j'avais envie de vous poser une question, parce que c'est des situations qui sont très dures, humaines, on déshumanise des gens, et peut-être votre boulot à vous, sur une partie de leur vie, c'est d'essayer de les réhumaniser, et être humanisé dans ce monde, c'est avoir des papiers. Je le dis comme ça parce que vraiment je pense qu'on est arrivé à ce stade-là. On est un humain quand on a un papier, parce qu'on a des droits quand
c'est
on a des papiers.
C'est un peu fou de devoir dire ça.
C'est chaud de devoir dire ça, mais on est arrivé.
Là, de l'entendre, ça rend fébrile.
Bah, ça heurte, et moi je le constate en permanence partout où je vais sur le terrain, quand je rencontre, et même dans la vie qu'on vit, on a des amis qui sont sans papier, et on se rend compte que leur quotidien tourne autour de cette problématique-là.
Ah, bah, sûr.
Parce qu'on ne peut pas, enfin, c'est dur mentalement. Il y a des gens qui sont sans papier, qui arrivent à vivre sans, en disant je m'en fous, je vis. Mais peu ont le mental de ça. Ouais. Et vous, votre mental en face de tout ça, c'est quoi? Parce que j'imagine quand même que de défendre des gens qui n'ont plus de perspective, qu'on rejette, qui risquent d'être envoyés dans leur pays, qui risquent beaucoup, qui risquent leur vie parfois, parce qu'on est quand même sur une question de vie ou de mort souvent. Comment ça fait quand on échoue?
Alors moi, ce à quoi je me raccroche toujours plutôt, c'est l'incapacité des autorités françaises à renvoyer qui que ce soit dans son pays d'origine. Et oui, c'est quelque chose qui me fait toujours tenir et auquel je pense que voilà, il faut aussi, il faut un peu prendre conscience. Je dis ça, c'est un peu, je crois aussi un peu le trait, hein, mais c'est que quand on perd à la CNDA, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne n'aura pas le statut de réfugié ou un autre type de protection internationale, qu'il va recevoir une obligation de quitter le territoire français qui va suivre dans les prochaines semaines et qui devient donc irrégulier sur le territoire français et qui doit donc partir. Donc c'est un peu la fin, c'est un peu la catastrophe, on a perdu. Et en fait, ce que moi je me dis, c'est que en fait à ce moment-là, il va rien se passer du tout, ils vont renvoyer personne dans leur pays. Enfin, surtout, ils font de plus en plus de renvois, mais ça va plutôt être avec des gens qui ont peut-être commis des délits ou des crimes en France. Ça, c'est une autre question. Mais pour le demandeur d'asile, j'ai un peu cette certitude et cette petite branche à laquelle me raccrocher, qui est que, en vérité, ils n'ont pas de papier. Donc, par contre, ils restent dans... Voilà, ils ne sont peut-être pas des humains
Ils restent
complets.
Dans une nébuleuse.
Ils restent dans une nébuleuse, mais par contre, ils ne sont pas renvoyés. Donc déjà, c'est quelque chose qui est bon à savoir, qui est bon à avoir en tête toujours. Et après, c'est d'essayer de combattre un peu cette déprime, comme on parlait tout à l'heure, en essayant de penser à l'après, donc de se dire, bon, ok, ça n'a pas marché, ça aurait dû marcher, parfois ça pouvait pas marcher, parce que pour x ou y raison, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va faire pour que cette personne qui va rester sur le territoire français, puisque en vérité elle ne va pas vraiment être envoyée, puisse un jour avoir des papiers, trouver une solution, s'en sortir. Et en fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a des voies qui sont de plus en plus restreintes de régularisation. Donc ça, c'est un autre problème, mais qui est la suite un peu de logique de ça, qui est un petit peu désespérante parce que ça devient vraiment de plus en plus compliqué, de plus en plus long. Donc on commence à se dire qu'en fait, même si la personne elle reste sur le territoire longtemps et qu'elle travaille et tout machin, elle va peut-être pas réussir à s'en sortir facilement, donc ça déprime un peu, mais on le dit pas trop aux gens qui viennent déjà d'avoir un rejet de la CNDA, et on leur dit ne vous inquiétez pas, tenez bon, restez en France, travaillez, peut-être que vous allez fonder une famille et ça va vous permettre aussi à un moment donné, in fine, d'obtenir un titre de séjour. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai en tête et que je sais et qui est plutôt vrai. C'est plus toute la durée avant que la personne obtienne véritablement un titre de séjour, elle va être longue. Elle va être longue et elle va être compliquée pour la personne, ça c'est sûr.
Il y a besoin de le transmettre. Et là, c'est plutôt là que toi, t'interviens, Simon, non?
Oui,
dans l'accompagnement d'autres possibles. Parce que quand on est pris c'est autre chose.
C'est vrai, Jean-Jean Martin, c'est un truc, on a discuté vite fait avant l'émission avec toi, mais on en a beaucoup discuté hier soir, face à la défaite juridique, se rappeler que le droit c'est pas une fin en soi et que le but in fine c'est de pouvoir exister en France et pouvoir être à l'abri là, etc. Et qu'il y a d'autres stratégies possibles. Déjà il y a d'autres stratégies de régulation et puis il y a d'autres stratégies tout court pour mettre les gens à l'abri, etc. Il n'y a pas que le droit qui est possible et heureusement. Et ça, ça aide, je trouve.
Moi,
personnellement, ça me permet de relativiser la défaite de l'asile, quoi.
Qu'est-ce que tu envisages comme autre stratégie que le droit?
Pour la régularisation, il n'y a que le droit. Je ne dis pas qu'il y a d'autres possibles en dehors du droit pour régulariser les gens. Je dis juste que le droit, ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient vivre une existence en France vivable au-delà d'avoir des papiers, si c'est compliqué, je ne dis pas. Et puis il y a d'autres manières de régulariser les gens, moins qu'avant, mais il y en a d'autres, c'est possible, il y a moins d'être stratégique là-dessus. C'est important d'en parler avec les gens qu'on accompagne avant. Enfin, moi je joue Monsieur Prudence, quoi, en tout cas avec les gens que j'accompagne. Je leur dis c'est compliqué, on ne sait pas, il faut penser à la suite, scénario 1, scénario 2, scénario 3, qu'est-ce qu'on va faire. Et mais je trouve que la danse, ça reste, c'est un peu cérébral tout ça, donc je trouve que ça protège pas mal. Et ce que j'entendais dans ta question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à la défaite du droit, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait face à la détresse des gens.
Oui, oui.
Bah et
oui.
Là, moi, j'ai rien à suggérer. Hein. On encaisse. Soit on met de côté parce qu'on n'a pas envie de faire face, soit... moi, je me rappelle des fois devant le miroir le soir, je disais, t'as fait du mieux que tu pouvais. Voilà, tu es limité, tu n'es qu'une seule personne. Mmh. Et des fois, ça suffit, des fois, ça suffit pas. Des fois, on chiale, enfin, en tout cas, moi. Des fois, on est en colère, des fois... on arrive à passer à autre chose, enfin voilà. Mmh. Ça reste, il n'y a pas de solution miracle, hein, et c'est de plus en plus difficile, sans vouloir être alarmant.
Comment on arrive, ça m'interroge, parce que je suis complètement d'accord avec toi que le droit n'est pas une fin en soi, mais je peux l'être parce que moi j'ai un passeport, des papiers, je vis... je peux voyager, oui. tout va bien. Donc, si tu veux, c'est vrai que je peux me permettre d'avoir cette réflexion-là. Le droit n'est pas une fin en soi. Comment est-ce qu'on peut arriver à transmettre ça à des gens pour qui le droit en serait une? Parce que, justement, il y a une forme de déshumanisation sur la question du droit.
C'est une bonne question. Quelque chose que moi, je fais tout le temps, avant que les gens passent à l'OFPRA et puis avant que les gens passent à la CNDA, parce que, bon, ils sont souvent les deux, c'est... alors je sais que ça réglera pas leur situation de séjour, hein, je suis bien conscient de ça. C'est juste leur rappeler que ce qu'ils vont raconter, c'est pas parce qu'ils ont pas de papier que c'est pas valable. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on dit pas assez, c'est important, que là, le jeu de l'OFPRA et le jeu de la CNDA, c'est juste le jeu des papiers. C'est un axe de leur vie. Mmh. Et que dans leur vie, il y a d'autres axes. C'est un axe important parce que ça conditionne plein de choses, on est d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'on se bagarre, et c'est pour ça qu'on fait le métier qu'on fait. Mais c'est pas pour ça que leur histoire n'est pas valable, que ce qu'ils disaient est faux. J'ai souvent ça dans mes suivis de est-ce que ce que j'ai raconté du coup est faux? Est-ce que mon histoire est fausse? Et c'est là, non, c'est pas vrai. Votre histoire, elle est tout à fait vraie, légitime. Et il y a un accompagnement autour de ça, alors qui est peut-être pas de notre ressort en tant que juriste, mais qui moi me paraît vraiment, vraiment important. Mmh. Et ça permet aussi un peu de se tenir, de se maintenir droit, aligné, de pas sombrer. Mentalement, et là je parle des gens qu'on accompagne de nouveau, et je trouve que c'est important, toi. Alors oui, ça a plein de conséquences, le droit, mais c'est pas enfin, j'ai cet espoir là mais comme tu
le dis
très bien,
je pense
que moi je peux dire ça parce que j'ai un beau passeport et une carte d'identité européenne.
Non, mais sans vouloir
et...
tu vois, nous mettre c'est dans évident. Une situation culpabilisante parce qu'on a des papiers et qu'on est né dans la bonne région du monde, on n'a pas choisi, c'est comme ça, on est là, etc. Comment est-ce que on peut, enfin moi ça m'intéresse beaucoup, hein, de travailler là-dessus, comment transmettre ça, le droit n'est pas une fin en soi, tu es vivant, tu es humain, tu es quelqu'un de bien, tu as une histoire, il faut vivre.
Tu vois, je me permets de rebondir.
Vas-y,
parce qu'en fait, cette pensée, elle vient pas, je l'ai pas inventée, quoi. C'est quelqu'un que j'ai accompagné qui m'a transmis ça. Et en fait, je me connais un jeune, je tairai le prénom, mais que j'accompagnais beaucoup de. Il avait du mal, le suivi était difficile, très absent, on n'arrivait pas à bosser le dossier à l'OFPRA, puis rejet OFPRA, et puis il fallait faire plein de mémoires complémentaires pour la CNDA, parce que c'était vraiment loin d'être gagné. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il m'a dit. Et en plus, il avait des problèmes avec la justice pénale, enfin voilà, donc vraiment beaucoup de droits. C'est un dossier que je voyais régulièrement. Et à un moment donné, et ça marchait pas, on n'arrivait pas à construire quelque chose pour, parce qu'il faut que les gens collaborent. Mmh. On peut pas, ça s'invente pas, quoi, de faire un recours. Et à un moment donné, il me dit, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous d'avoir mes papiers, je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je vis d'autres trucs. Il avait des problèmes avec l'alcool, des problèmes familiaux, etc. Et il a dit cash, il dit, mais je m'en fous. Et ce jour-là, j'ai continué à le suivre, mais on a arrêté de faire du droit et on a fait d'autres trucs. Et petit à petit, bon, on a eu la chance que les procédures ont duré presque 2 ans et demi, donc c'est extrêmement long. C'est aussi le hasard, voilà. Et finalement, voilà, on a créé un autre lien de confiance et lui, il a pris le temps de prendre soin de certaines choses de sa vie. On a pris le temps aussi de créer un lien plus de confiance et finalement, on a bien travaillé et il a eu son statut et voilà. Ah. Et aujourd'hui, il va très bien et je le croise régulièrement dans la rue et un travail. Et, voilà, c'est une belle histoire aussi que j'aime bien. Mais je me souviens que ça m'avait heurté. Il m'a dit, mais je m'en fous. Et donc, moi, tout mon métier, d'un coup, qui ne sert plus à rien. J'étais là, oh là là, j'ai pas beaucoup dormi.
C'est intéressant.
Hein. Oui, non, mais moi, je suis totalement d'accord avec son.
Enfin, avec ce et c'est, toi, c'est ça, que... ce truc de il n'y a pas que le droit.
Ouais. En fait, moi, je trouve que la question de comment on transmet cette idée de qu'il n'y a pas que le droit, c'est pas à nous de transmettre cette idée, je pense, en tant que, enfin moi en tant qu'avocat en tout cas.
Oui.
Alors en tant qu'ami, par exemple, si on est ami avec une personne dans cette situation, on peut par les mots lui dire qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est les gens eux-mêmes en fait qui vont à un moment dépasser ce stade-là, je pense en tout cas, et je vois, parce que je vois des gens qui sont, et c'est aussi pour répondre à ta question de tout à l'heure sur comment on lutte un peu contre la déprime, c'est que les gens sont souvent moins déprimés. Enfin moi j'ai toujours été stupéfait, notamment avec l'asile, d'à quel point les gens réagissent bien quand tu leur annonces qu'ils n'ont pas gagné. Alors que tu dis, ah, la catastrophe, faut que je l'appelle, parce que tu dois l'appeler pour lui dire, ah, bah, on a perdu et tout, machin. Et lui expliquer la suite en lui disant que ça va être compliqué, mais que c'est pas fini, mais que ça va être compliqué. Et les gens, ils sont vraiment, ah, ok, j'ai compris, ils raccrochent, enfin voilà, ok, bonne soirée, merci, merci pour ce que vous avez fait, ou voilà, ou non, mais. Ils ont, enfin les gens qui, après je pense que c'est aussi parce que tu traverses tout ça et que du coup tu t'attaches moins. En fait la procédure d'asile c'est qu'un truc qu'ils ont vécu dans toute la vie, qu'ils ont déjà vécu. Ouais.
Et dans parfois avec,
avec un
déjà,
parcours qui est déjà long.
C'est ils ont léger, hein, à côté de traverser la Méditerranée par exemple.
Et ils ont déjà eu, en fait, ils ont sûrement déjà connu des rejets d'autres choses, tu vois, des gens, des territoires et d'administrations autres que l'OFPRA ou la CNDA. Et en fait ça les impressionne plus beaucoup. Et je pense que c'est... Donc c'est les gens eux-mêmes qui dépassent ça, et puis voilà, effectivement, les gens, ils vont faire leur vie, ils vont bosser, parce que voilà, tu vas bosser au black, et puis en fait tu vas aussi louer un truc. Alors c'est toujours dans des conditions plus compliquées que ça avait des papiers, c'est juste que la vie elle est plus dure, mais la vie elle est pas impossible non plus, et c'est ce que les gens, bah en fait c'est parce qu'on est aussi des humains et qu'on est résilients, et que même nous, nous trois là, si on a des papiers, etc., mais si on va dans un pays où on n'a pas de papiers, et qu'on veut rester sur le territoire parce qu'on a envie de rester là-bas, et ben on va aussi se débrouiller, on va aussi apprendre à vivre, et peut-être qu'on n'aura jamais de papier, et on va survivre à cette épreuve.
Donc, espérons.
Espérons, oui, espérons. Mais par contre, c'est difficile. C'est, voilà, je dis ça, évidemment, c'est compliqué, mais je pense que... Enfin voilà, moi, je pense pas que les papiers, effectivement, soient une fin en soi. Par contre, clairement, c'est un plus, et c'est bien, mais... Je pense qu'il y a un moment où on peut dépasser ce stade et que c'est nous qui y mettons beaucoup d'importance, parce que moi c'est mon métier entre guillemets d'aider les gens à avoir des papiers, mais bah voilà, il y a des gens pour qui c'est peut-être moins important et qui vont se construire autrement quand ils vont voir que ça marche pas. Et
c'est et vrai voilà, qu'il y a un truc, je sais pas si toi tu vis ça Martin, mais un truc un peu ambivalent de... Moi je me rappelle régulièrement que c'est pas une fin, et en même temps on donne tout quoi, enfin clairement,
ah ouais, non, bah, sûr,
chaque
ouais.
dossier on va au
bout. Non parce que c'est important, ah, voilà, c'est pas une fin. Mais
c'est important de vraiment aller le plus, je précise quand même parce que ça pourrait être pris pour un discours de... Non mais bon voilà,
c'est pas très important, ouais, non bien sûr.
Non,
c'est une sorte, je sais pas, de... Il n'y a pas trop de con, enfin c'est une ambivalence quoi.
Ouais, c'est une ambivalence. C'est une fin en soi, mais c'en est une, mais
en même temps, bon voilà, c'est la bagarre quoi aussi. Enfin, chaque dossier, c'est... J'aime pas trop les mots de combat, mais on est quand même là, c'est quand même la bagarre.
Ouais, avec, c'est la guerre. Ouais,
c'est quand même la guerre avec l'OFPRA.
C'est sûr.
Enfin,
c'est,
on n'est pas là pour faire des cadeaux quoi.
Avec l'OFPRA et avec les préfectures.
Oui, avec les préfectures, c'est un vampire.
Voilà, et puis les coups sont permis.
Oui, oui.
Personnellement, je trouve que tous les coups sont permis.
Oui, bien sûr. Vous prenez pas votre rôle à la légère.
Non, pas du tout.
En cherchant un espace philosophique qui pourrait vous libérer de la charge.
Il faut arriver à dormir parce que sinon après on est moins efficace.
Mais voilà. Moi, je trouve en tout cas, je porte beaucoup de... Comment dire ? J'ai toujours confiance dans les gens que j'accompagne, mes clients, les requérants, les gens pour me donner du gaz, parce qu'en fait eux-mêmes ils en ont plein en réserve. Alors bon, évidemment il y en a toujours qui s'écroulent sur après le dernier, l'énième rejet, ils en peuvent plus, et bah voilà, ça peut ils peuvent en souffrir beaucoup et le faire ressentir, mais 98% de mes dossiers, les gens ils ont un rejet et c'est... Ils me disent arrête de t'inquiéter, enfin c'est normal, je connais, j'en ai déjà eu des rejets. Et donc moi j'ai aussi pris le pli de ça, et parce que après je suis aussi d'un naturel comme ça, à pas être trop inquiet des choses, en disant voilà, on va rebondir, ok, il y a eu un rejet là, on va rebondir, on va voir ce qu'on va faire après.
Et là tu arrives toi, Martin Jouvin, en tant qu'avocat, de prendre un cas comme ça où t'as un rejet, et de dire derrière bon, je vais continuer avec toi. Pour
pas, ça dépend,
pas tous les cas,
ça, j'imagine. Ça c'est pas sur le cas, c'est plus en gros, c'est s'il y a un rejet, je vais lui dire maintenant on va rien pouvoir faire à court terme, ni même à moyen terme en termes de mois, et maintenant c'est plus en termes d'années, mais je vais te donner des conseils, c'est un peu, je vais donner des derniers conseils de fin quoi, sur la suite, sur cette OQTF qu'ils vont recevoir, qu'ils peuvent contester. Donc des fois je vais la contester moi, ça sert pas à grand chose, mais je le fais parce que voilà, et ensuite en disant voilà, bah maintenant vos possibilités c'est ça. Mais après, je vais pas y suivre parce que les possibilités, ouais. c'est du très long terme maintenant. Donc ça va être. Après, s'ils reviennent 5 ans après parce qu'ils se rappellent de moi et qu'ils me disent ah bah j'ai écouté vos conseils, c'est bon, je crois que j'ai un dossier qui est plutôt pas mal, bah évidemment.
Ça reste. Tu files la main.
Oui, bien sûr. J'accompagne dans la procédure, il n'y a pas de souci. Mais non, je reste pas avec toutes les personnes qui ont eu un rejet. C'est juste au moment du rejet, bah, je suis avec eux au moment de cette réception. Enfin, en tout cas, je les appelle ou je les vois. Et on parle un peu, évidemment, et ils me disent bah, qu'est-ce que je peux faire.
D'accord. Voilà, bah écoutez, vous voyez, messieurs, il est 18h. Ah, ça fait une heure qu'on parle.
C'est la fin.
Et on n'a même pas abordé le pacte.
Mais tant mieux.
Tant mieux parce que c'est vrai que. Non, je dis pas tant mieux parce que je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés, parce qu'il y a des gens qui suivent. Il y a quand même pas mal de nos auditeurs bah, qui sont sur le terrain, qui accompagnent des gens et qui ont besoin d'informations. Mais comme je sais que vous êtes à l'écoute et que vous êtes très réceptif et réactif, quand on vous demande des conseils, bah, du coup, voilà, vous êtes là pour conseiller, c'est super. C'est une présence importante, en tout cas pour nous, pour les personnes qui sont accompagnantes. De pouvoir rappeler quelqu'un, parce que moi, le droit, je vais pas me plonger dedans.
C'est pas marrant.
J'avoue que c'est vraiment pas marrant, des moments où ça me dépasse complètement, puis ça change tellement vite, et il se passe tellement de trucs, etc., que c'est vrai qu'on a besoin, quelque part, d'avoir un peu des spécialistes. Il faut pas s'en défendre tant que ça, parce que ça fait aussi du bien de pouvoir appeler quelqu'un et dire, voilà, toi, tu connais ça, tu peux m'aider. Voilà, donc, pas de crainte.
T'as le droit d'être spécialiste.
On a le droit d'être spécialiste.
Et ben, bon courage.
Bah, merci.
Voilà, je vous remercie.
Ça va aller.
Je vous remercie pour votre présence.
On est confiants. Hein.
Et puis la prochaine fois, on fera ça avec ma camarade Cicel, qui est beaucoup plus spécialisée que moi sur les questions juridiques. Elle sera ravie de vous accueillir à ce micro pour elle. Vous faire parler sur les détails du nouveau pacte migratoire. Elle vous cuisine. Je remercie beaucoup Ute qui est venu nous accompagner à la technique au pied levé, là, merci. Comme ça, et à une prochaine fois.
Ouais, carrément.
Je rappelle que Passeuse d'info est rediffusée le samedi à 18h et le mardi à 8h du matin, et on va se retrouver, pas avec moi, mais en tout cas jeudi prochain avec une autre émission de Passeuse d'info. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Passeuse d'info.
Quand on a demandé l'asile,
sans papier,
on m'a dit c'est pas facile,
sans papier,
tu vas attendre 2 ans,
sans papier,
et tu reçois refusé.
Passeuse d'info est une émission consacrée à la question migratoire. Au gré de l'actualité, des rencontres, des événements, elle tente de reconstruire le paysage politique, économique et social d'un des enjeux les plus complexes et les plus graves de notre époque. De tous les horizons, des intervenants et des intervenantes du monde entier nous informent de leur action et de leur actualité.
C'est pas...